Rencontre œcuménique du 1er mai 2024 à l'abbaye de Belloc, la synodalité construire ensemble l'église d'aujourd'hui. Dans cette première partie que nous diffusons aujourd'hui, vous pourrez entendre le mot d'accueil du prieur de Belloc, le frère Jean-François Dallemant, suivi de la présentation du thème et des intervenants par l'abbé Gilbert Wangraoua, délégué diocésain à l'œcuménisme. Et dans cette première partie, vous pourrez entendre l'intervention du pasteur Michel Jacob et du père Georges Ashkoff. Nous commençons par le mot d'accueil du prieur de Belloc, le frère Jean-François.
Je vous salue tous avec joie et bonheur, puisque cette journée est une journée de rencontre. Et comme toute rencontre, je pense que la confiance habite chacun dans cette démarche œcuménique du jour. C'est fondamental. En effet, depuis le 1er mai 1961, les rencontres œcuméniques entre protestants et catholiques, puis avec les orthodoxes, dans l'élan du Concile Vatican II, 1962-1965, se sont succédées à un rythme annuel sur la colline de Belloc. Je dis annuel en sachant que pendant la période du Covid, il y a eu 2 années blanches. Mais ceci dit, c'est un peu exceptionnel. Ces rencontres œcuméniques, il faut le savoir, il faut le dire et il faut le reconnaître, elles n'ont pas cessé de jouer un rôle important dans notre tout petit secteur d'église. C'est une constante. Même quand il y avait au début 10 personnes, 12 personnes, ou d'autres journées où il y a eu plus de personnes. Et aujourd'hui, on dépasse, puisqu'on n'a pas assez de chaises pour asseoir tout le monde. Il n'empêche que quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, le Seigneur est là. Et donc, la présence du Seigneur fait que c'est un moment plus qu'intime, c'est un moment d'évangélisation pour chacun de nous. En effet, chacune de ces rencontres annuelles et les nombreux thèmes qui ont été abordés, c'est considérable quand on prend conscience des listes, par des témoins et des acteurs œcuméniques, ont tracé un chemin dans nos cœurs. Et ce chemin-là, je peux dire qu'il est balisé à chaque fois de petits cailloux blancs, tel que dit le livre de l'Apocalypse. Beaucoup parmi nous qui ont été animateurs et qui sont aujourd'hui animateurs peuvent témoigner des grâces reçues en s'associant à cette démarche œcuménique. En ce 1er mai 2024, nous espérons que cette table ronde avec le père Georges Ashkoff, le pasteur Michel Jacob et monseigneur Bernard Dubasque, même s'il n'a pas la petite calotte violette sur la tête, mais je passe, nous éclairerons sur la synodalité vue et vécue par nos églises. Voilà. Nous avons besoin d'être d'abord éclairés sur ce mot synodalité, qui n'est pas un vocabulaire de notre langage courant. Quels sont les enjeux? Comment nous le voyons? Comment nous le vivons? Et donc, l'intervention de ces 3 personnalités œcuméniques vont nous y aider. Et je termine en disant un merci. Quand on dit un merci, on dit tout. Pour toute l'équipe œcuménique qui s'est réunie plusieurs fois sur la colline, au chalet, donc une des maisons d'accueil à la communauté monastique où nous sommes avec les sœurs bénédictines, pour organiser cette journée du 1er mai 2024. Il y a eu, je pense, au moins 4 réunions. C'est pour vous dire le travail conséquent qu'il y a derrière. Et puis, ça ne suffit pas qu'il y ait simplement des réunions préparatoires. Il faut que le peuple de Dieu soit là. Et vous êtes là. Aussi, je vous en remercie de tout cœur de votre présence et de votre participation active. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen.
Après l'intervention du frère Jean-François, prieur de l'abbaye de Belloc, voici maintenant l'intervention de l'abbé Gilbert Wangraoua, délégué diocésain à l'œcuménisme.
Comment faire église aujourd'hui avec les défis de notre temps? Comment marcher ensemble vers le même Christ sur des chemins divers et variés? Quelle gouvernance inventer et quelle place prendre pour être acteur et témoin dans nos églises en pleine reconstruction? Comment revisiter les lieux de prise de décision ou les leviers de pouvoir en Église de manière à être à l'écoute et de tous et surtout à être au service du Christ et de son Évangile. Pour y répondre, le thème suivant nous est proposé aujourd'hui, la synodalité, construire ensemble l'Église d'aujourd'hui sous forme de questions. Et pour nous y aider et à y voir clair, trois intervenants se prêtent à la tâche. Ils essaieront de nous montrer comment cette démarche se déploie à l'intérieur des églises respectives. J'ai nommé ici l'Église protestante unie de France par le pasteur Michel Jacob, l'Église orthodoxe par le père Georges Ascoff et l'Église catholique par Monseigneur Dubasque. Bernard. Trois figures connues sur le territoire, ici et bien au-delà, eu égard au parcours impressionnant de chacune d'elles. Ayant la lourde responsabilité de vous présenter, souffrez que je n'en évoque ici que quelques dimensions susceptibles d'éclairer le public sur la pertinence de vos propos qui vont suivre. Tous les trois, vous avez une formation universitaire conséquente et un enracinement ministère pastoral de terrain. Michel Jacob, vous avez fait des études dans les facultés évangéliques de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine, puis à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, et enfin à l'Institut catholique de Paris. J'en évoque que quelques éléments. Georges Ascoff, vous avez fait vos études à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Tikhon à Moscou et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Bernard Dubasque, fils d'ingénieur et famille de matheux et très doué, études à l'Institut catholique de Toulouse et à la faculté de théologie protestante de Montpellier, complétée d'une formation à Tübingen et Mayence. Sur le terrain pastoral, Michel Jacob, vous avez commencé votre ministère à Amiens, au sein de l'Église réformée de France, dans les années 80 jusqu'en 88, puis au sein de la Fédération protestante de France, comme aumônier aux armées, essentiellement au sein des troupes aéroportées de la 11e brigade parachutiste à Pau et à Toulouse, avec deux séjours en Outre-mer, notamment en Guyane et à Djibouti. Très souvent engagé sur des théâtres opérationnels avec les soldats, dans les airs, sur terre, sur mer, menant une mission de proximité. Arrivé à 55 ans, vous prenez une autre mission de votre église dans un poste pastoral en Béarn, à Oloron et à Pau, encore pour quelques années de ministère en tant que pasteur. Quant à vous, Georges Ascoff, vous êtes archiprêtre de l'église orthodoxe pour le vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis du Guine, de la métropole de France du patriarcat œcuménique de Constantinople. C'est pas rien de le souligner aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau politique. Félicitations pour vos 30 ans d'ordination cette année. Vous avez la charge de la paroisse orthodoxe de Biarritz et celle de Lourdes en tant que recteur. Vous êtes aussi l'aumônier des pèlerins orthodoxes à Lourdes, aumônier pour les détenus orthodoxes dans 7 établissements pénitentiaires donc du Sud-Ouest. Vous enseignez la théologie dogmatique à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. Et vous, Bernard Dubasque, vous êtes basque que de nom, hein? Très landais, né à Montmartre, donc, mais vous êtes au Pays Basque, les bienvenus. Comme vous le dites à la presse, donc il y a de cela en 2011, vous avez été très vite repéré par vos supérieurs et votre rayonnement va au-delà du diocèse d'Aire et d'Aix, votre diocèse d'origine. D'abord nommé délégué diocésain, l'un des plus jeunes délégués diocésains à 26 ans, donc au milieu de vétérans. Donc, vous avez côtoyé les plus grands de l'œcuménisme, disons les pères de l'Église, comme Yves Congar, un théologien du Concile. Donc, nous avons ici de bonnes mains pour nous dire, voilà. Vous avez animé le 1er mai ici, comme cela a été évoqué par le frère Jean-François. Donc, 1er mai de Belloc, beaucoup de 1er mai, dont celui de 95, avec Monseigneur André Duplex et le pasteur Noff, et donc qui avait remplacé au pied levé donc le France Quéré, qui était décédé la semaine qui a précédé. Et vous avez, je passe sous silence d'autres responsabilités que vous avez exercées en tant que professeur, en tant que aumônier de catéchèse et bien d'autres, en tant que curé de plusieurs paroisses et en tant que vicaire général donc du diocèse de voilà. Pour évoquer seulement donc votre responsabilité de délégué à l'œcuménisme donc de votre diocèse, mais surtout les responsabilités donc exercées au sommet de l'Église, donc au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, donc à Rome. Vous avez également été secrétaire général adjoint à la Conférence des évêques de France. Vous êtes donc un témoin privilégié de la mise en œuvre du Concile. Votre contribution nous aidera à comprendre comment le passage d'une église pyramidale à l'église peuple de Dieu permet d'espérer aujourd'hui un nouveau souffle par le biais de la synodalité, dont la phase finale aura lieu en octobre à Rome. Georges Ashkoff, votre réflexion autour d'un regard critique sur l'histoire de l'institution de l'Église orthodoxe aidera sans doute notre Assemblée ici à voir les mécanismes de gouvernement et de fonctionnement de votre Église qu'on ne connaît pas forcément bien.
Après l'intervention de l'abbé Gilbert Wangrawa, délégué diocésain à l'œcuménisme, voici l'intervention du pasteur Michel Jacob.
Donc je suis chargé de vous apporter ce matin une parole protestante sur le sujet qui nous rassemble en ce jour, en ce jour qui marque notre fidélité à cette rencontre annuelle œcuménique. Alors une parole protestante, et le pronom « une » est d'une importance capitale puisque je ne saurais rendre compte ce matin de la diversité des ecclésiologies présentes au sein des protestantismes. D'ailleurs, à l'occasion de notre dernière prière œcuménique itinérante à Pau, alors que nous échangions sur la rencontre de ce jour, mon collègue de l'Église évangélique libre nous posait la question de l'intérêt que pouvait avoir un tel sujet et donc une telle rencontre pour des communautés évangéliques qui, pour la plupart, sont congrégationalistes, donc très locales, et donc chez lesquels la dimension synodale n'existe pas ou peu. Donc c'est donc comme pasteur de la tradition luthéro-réformée que je vous parlerai, et encore plus spécifiquement comme pasteur français. Bon. Un autre point, effectivement c'est une gageure que nous allons relever tous les trois, de pouvoir aborder ce thème de la synodalité chacun en 20 minutes. Et je pense que mes collègues catholiques et orthodoxes ont éprouvé la même difficulté, entraînant une certaine frustration.
Tout à fait.
Enfin, je veux exprimer ma reconnaissance aux deux professeurs André Birmelet, que probablement certains parmi vous connaissent, qui a été professeur à la faculté de théologie de Strasbourg et qui est vraiment quelqu'un qui s'est engagé dans la réflexion œcuménique. Et puis à la plus jeune professeure Céline Romer, pour leurs travaux sur la synodalité, produits à l'occasion du colloque qui a été organisé en 2019 aux facultés jésuites du Centre Sèvres à Paris. Je vous donnerai les références si vous le voulez. Il s'agit du numéro 107 d'avril-juin 2019 dans la revue Recherche de sciences religieuses. Je dois avoir par là le... Voilà. Ouais, c'est une jolie revue, comme ça, tout un numéro sur la synodalité. Voilà, pour commencer, j'aimerais partager avec vous quelques dates qui nous permettront de situer cette question de la synodalité dans les églises de la Réforme en France. Bon, c'est moi qui ai choisi les dates, vous pourrez en apporter d'autres si vous le souhaitez, ou contester l'importance de telle ou telle d'entre elles, mais voilà, je partage ces dates avec vous. pour vous montrer qu'en fait, les choses se sont jouées sur très peu de temps, sur un demi-siècle en gros. Donc 1517, les 95 thèses sont placardées par le moine augustinien, docteur en écriture sainte, Martin Luther, à Wittenberg. C'est la date qui est généralement retenue par le protestantisme comme date de naissance de la Réformation, 1517. En 1520, trois ans plus tard, on assiste à une multiplication des cellules évangéliques dans le royaume de France, en trois ans. 1533, l'étudiant Jean Calvin adhère aux idées de Luther. Et en 1536, alors que Calvin est né en 1509, hein, en 1536, alors qu'il a 27 ans, paraît la première édition de l'Institution de la religion chrétienne, qui est en soi déjà un monument littéraire et dont la traduction en français va probablement participer à l'évolution de la langue française dans notre pays. 1559 a lieu le premier synode national des églises prétendument réformées en France. Ce synode est autorisé par Antoine de Bourbon et il réunit les représentants de 72 communautés locales. Ce synode se réunit, quoique autorisé, quasi clandestinement, du 25 au 29 mai, dans la rue des Marais-Saint-Germain, aujourd'hui la rue Visconti, pour ceux qui iraient à Paris et qui voudraient visiter le Paris protestant. Et en fait, ce synode est important, c'est le premier. Il va doter les communautés locales d'une confession de foi, que l'on appellera par la suite « Confession de foi de La Rochelle », et d'une discipline ecclésiastique. Donc vous voyez, entre 1520 et 1559, toute une multitude de petites communautés locales se reconnaissent quand même comme étant dans ce mouvement luthérien ou évangélique et éprouvent le besoin de se doter de structures. À cette époque-là, une église qui n'a pas de structure et qui n'est pas reconnue par l'État ne peut survivre. D'où l'importance d'avoir ce premier synode qui va donner à ces petits groupes évangéliques une confession de foi unique et une discipline d'église. Alors ces textes, c'est pour ça qu'on parle en France souvent du calvinisme, hein, eh bien ces textes sont effectivement de la main de Jean Calvin, un petit peu remanié, parce que certains parmi vous ne sont pas sans savoir que jamais un texte n'est adopté tel quel en synode. Il faut toujours qu'il soit retouché. Bon. Même quand c'est une parole de Jean Calvin, on va la retoucher. Voilà. 1562, la France entre dans les années de guerre de religion, dont probablement l'épisode le plus marquant pour les protestants français, c'est celui des massacres de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Et ces guerres, en fait, ne cesseront qu'avec l'advenue de Henri IV comme roi de France, qui va donner au peuple protestant, mais aussi, je dirais, au peuple français, l'édit de Nantes. Par la suite, bon, nous connaissons la suite des épisodes de ces années un peu tragiques pour l'histoire de France, puisque c'est le roi Louis XIV qui, à l'île de Fontainebleau, va révoquer l'édit de Nantes. Voilà, j'abrège un petit peu ces dates. Une dernière date, cependant, importante, le 1938, là on fait un bond en avant, hein, 1938, premier synode de la nouvelle église qu'est l'église réformée de France. Et ce synode se tint à Lyon. On est donc au XXe siècle. Depuis cette date, donc synode de Lyon, 1938, les synodes régionaux et les synodes nationaux se réunissent annuellement, avec une grande régularité. Bon, rapidement, il nous faut quand même combler les trous qu'il y a dans la raquette. Premier trou, l'avant-réformation. Les églises de la Réformation ne sont pas tombées du ciel au XVIe siècle, un peu comme la Nouvelle Jérusalem, vous voyez, qui descend toute prête. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les églises de la Réformation s'inscrivent bien dans l'histoire mouvementée de l'Église. Et donc la synodalité n'est pas née avec la Réformation, mais existe dans l'Église depuis le premier concile. Moi, je dis que le premier concile, c'est Nicée, d'autres diront que c'est Jérusalem. Bon, chacun fait ses choix en la matière. Disons qu'au IVe siècle, en tout cas, la question de la synodalité se pose de façon très aiguë. Et il y eut très régulièrement dans l'Église des conflits et des séparations, pensons à 1054 par exemple, à cause entre autres de cette question de l'autorité dans l'Église. Qui a la parole dernière dans l'Église ? Il y a un mouvement qu'on ne connaît plus guère aujourd'hui, qui s'appelle le mouvement conciliariste, hein, qui voulait donner tout le poids aux décisions des synodes. Et il s'opposait à un mouvement qui, lui, était monarchiste, enfin, le monarchisme, qui voulait donner toute l'autorité au pape et aux évêques. Et la réforme protestante, choisit la voie du conciliarisme. Le concile de Trente, 1545-1563, donc nous sommes dans la même période, le concile de Trente, lui, fait le choix du monarchisme. Alors, le deuxième trou dans la raquette, c'est la période 1559-1938. Alors, il faut le reconnaître, sur cette question de la synodalité, dans le protestantisme, il y a loin du rêve à la réalité. Tout d'abord, il fallait que les protestants de France soient reconnus par le pouvoir pour pouvoir exister et se développer. Cela n'a pas été le cas pendant longtemps. Et quand nous sommes entrés dans une période de tolérance, eh bien, force est de constater que les communautés n'ont pas mis en œuvre un chemin de synodalité. Ce sont des communautés qui se sont retrouvées, en fait, très congrégationalistes. L'existence de l'Église, elle était avant tout locale. Il y avait bien sûr toujours la confession de foi de La Rochelle, il y avait bien sûr toujours la discipline ecclésiastique, mais finalement, il n'y avait pas trop d'autres débats. Et quand on se rencontrait, exceptionnellement, c'était essentiellement pour régler des problèmes de mœurs dans l'Église, pour pouvoir traiter d'un pasteur qui avait eu des comportements un peu délicats, enfin voilà. Mais ce n'était pas de grands débats théologiques, de grands débats d'idées ou de la réorganisation de l'Église, non. Plusieurs courants se sont développés dans le protestantisme, des courants qui étaient très différents les uns des autres. Au XIXe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, le courant libéral qui s'opposait à un courant plus orthodoxe. Et puis vient le courant plus piétiste, hein, les mouvements de réveil. Et c'est très difficile de mettre ensemble ces trois mouvements qui existent au sein du protestantisme français. Et donc, en 1872, les orthodoxes décident de lancer un synode national auquel les libéraux sont très réticents. Et les mouvements de réveil n'attendent pas grand-chose de cette rencontre nationale. Ce qui fait qu'en fait, la synodalité, dont on parle beaucoup dans le protestantisme, elle est du XXe siècle. Elle est de ce siècle-ci. Enfin, du siècle dernier, plutôt. Bon. Cette synodalité, à quoi ça servait finalement de mettre en place les synodes ? Pourquoi certaines églises protestantes ont fait le choix d'être des églises très locales et non des églises nationales ? Le courant du protestantisme auquel j'appartiens a fait le choix d'être un courant national, avec des échanges entre les paroisses, avec des responsabilités nationales et des responsabilités locales. Le synode, qu'il soit régional ou national, n'est que l'émanation des paroisses locales. Si un synode a lieu, c'est parce que des paroisses locales envoient des délégués à un rassemblement d'églises. Délégués pasteurs et laïcs, systématiquement. Cela s'appuie sur cette théologie qui s'est développée dans notre Église dès le début, du sacerdoce universel, et donc tout un chacun, délégué par son Église, pouvait être membre d'un synode. C'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, sont membres du synode de droit les pasteurs, et puis après les délégués des églises. Délégués des églises locales pour ce qui est du synode régional, délégués des régions pour ce qui est du synode national. Et tout se joue, l'autorité se joue et la vie de l'église se joue dans cette relation entre la paroisse locale, qui est le premier lieu de témoignage de l'évangile, et le synode national qui essaie d'organiser la vie de nos églises. Les évolutions. Alors vous pouvez vous en douter, les premiers synodes, c'était des synodes de notables, de pasteurs et de notables. On n'envoyait pas, entre guillemets, n'importe qui à un synode. Aujourd'hui, on n'envoie pas n'importe qui non plus, il ne faut pas croire, hein, on n'envoie pas n'importe qui à un synode. Mais on envoie des personnes qui sont choisies au sein des conseils presbytéraux, donc des communautés locales, ou au sein du conseil régional. Force est de constater que selon le sujet abordé à l'occasion d'un synode, eh bien, les gens, y compris les pasteurs, ont plus ou moins de compétences. Les dossiers synodaux sont de lourds dossiers qui nécessitent de s'y investir longtemps, c'est un long temps de préparation pour pouvoir s'approprier les questions qui nous sont posées et en débattre valablement. Alors, un dernier point, peut-être, la synodalité marche bien. Mais la synodalité, elle a quelque chose de surprenant. C'est que de plus en plus nos paroissiens disent « c'est quand même étonnant parce qu'en synode national, quand un texte est proposé, il est voté à quasiment 90% des présents. » Donc, on ne sent pas de comme s'il n'y avait pas d'opposition. Bon, il faut d'abord savoir que tout le monde ne veut pas aller à un synode régional ou national. Ce sont des gens très investis dans la vie de l'Église qui représentent leur communauté ou leur région. Ce sont des gens qui suivent de près les débats qui vivent dans nos communautés. Et donc, si je prends le cas, par exemple, d'un synode qui a fait, dont on a beaucoup parlé, et qui en a bloqué certains, mais qui au contraire en a réjoui d'autres, le synode sur la bénédiction, qui a permis à notre Église d'envisager la bénédiction de couples homosexuels, eh bien c'est vrai que les textes sont passés à 90-95%. Et que les 5% étaient frustrés. Mais le travail qui a été fait en synode régional et en synode national a permis l'élaboration de ce texte, qui est un texte qui n'est pas un texte de théologie fermée, mais qui est un texte, tout en étant un texte de théologie, un texte très pastoral, qui tient compte des réalités locales. Le synode national n'a pas dit « désormais, les pasteurs marieront des couples de même sexe et les communautés accueilleront des couples de même sexe. » Le synode n'a pas dit ça. Le synode dit « il est possible aujourd'hui pour une communauté d'accueillir des couples de même sexe. Il est possible pour un pasteur de bénir une telle union. » Donc on n'est pas dans une fermeture, dans une décision qui tombe abrupte, on est dans une démarche de consensus. Voilà. Dernier point, j'arrêterai là. Je ne sais pas si j'ai trop dépassé. Je ne vais pas regarder. Excusez-moi. Dernier point, le constat que je fais après 41 ans de ministère pastoral, eh bien, c'est que les outils qui sont mis aujourd'hui à notre disposition, et je pense notamment aux outils informatiques et à Internet, font que de plus en plus de choses qui étaient vécues au niveau local, notamment tout ce qui concerne la formation biblique, formation à la prédication, formation à la catéchèse, etc., eh bien, se trouvent finalement de plus en plus envoyées vers le national. Voyez. Et donc, ma vision un petit peu de mon Église aujourd'hui, c'est une Église où le témoignage est rendu localement, bien sûr, c'est les églises qui vivent leur foi et qui en témoignent, mais où de plus en plus de responsabilités, de plus en plus d'outils viennent du national vers le local. Moi, je le regrette. Moi, je le regrette personnellement. Je pense que tant qu'on peut maintenir des formations localement, voire au niveau d'un consistoire, donc ce qui regroupe chez nous, en tout cas dans le Béarn, à sept paroisses, tout ce qui peut être fait localement, les décisions qui peuvent être prises localement, la gestion qui peut être faite localement, doit être faite. Tout cela doit être fait localement. Sinon, on envoie toutes ces responsabilités au niveau national et on se décharge sur le national et on attend finalement une parole un peu sacrée, un peu définitive qui nous viendrait du national. La synodalité est une très belle chose qui demande un gros investissement personnel de la part des prêtres, des pasteurs, des laïcs, enfin de tous ceux qui sont prêts à vivre ces temps de synodalité. Et ça demande oui, un grand engagement, une grande écoute des uns des autres et le fait de se savoir responsable, pleinement responsable de sa communauté locale, sans avoir à se reposer sur d'autres. Merci pour votre attention.
Après l'intervention du pasteur Michel Jacob, écoutons à présent l'intervention du père Georges Ashkoff.
Donc, mon discours s'appelle « Un regard critique sur l'histoire de l'institution de l'Église orthodoxe ». Je préfère de critiquer les évêques. Je vais commencer par trois remarques préliminaires. Tout d'abord, malgré le fait que je parlerai de l'Église orthodoxe, je tiens à vous avertir immédiatement que ma vision n'est pas stéréotypée, mais critique, puisque je suis partisan des réformes de l'institution de l'Église orthodoxe. Deuxièmement, dans la plupart de l'Église orthodoxe, le terme de « synode » est utilisé dans un sens plus étroit. C'est un organe directeur permanent, une assemblée d'un certain nombre d'évêques dirigée par un ancien patriarche ou métropolite ou archevêque. Pour les assemblées plus larges, nous utilisons le mot « concile » ou « assemblée ». Troisièmement, je pense qu'il est impossible d'imaginer le concept actuel de synodalité dans l'Église orthodoxe si l'histoire de la question n'est pas présentée. L'expérience historique nous aidera également à comprendre où les églises peuvent aujourd'hui trouver le point de convergence. Il est très connu que l'ancienne église a été organisée par les apôtres sur le principe communautaire. Aujourd'hui, nous pouvons appeler ces réunions des chrétiennes assemblées eucharistiques ou la communauté sacramentelle ou communauté mystérieuse, puisque le sacrement de l'Eucharistie est le fils divin principal de l'Église. Ainsi, le paradigme de l'ancienne Église est le suivant. Assemblée eucharistique est la continuation ecclésiologique de la scène mystique. C'est le compte de l'image eschatologique de l'Église. C'est le corps du Christ rempli du Saint-Esprit. Par conséquent, la communauté sacramentelle rassemblée au nom du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie dirigée par son berger est l'Église locale. La théologie scolastique catholique et orthodoxe a mis l'accent dans l'histoire de la création de l'Église sur le sacrement de l'ordre en le traitant uniquement de haut degré hiérarchique, évêque, prêtre, diacre. Bon. On ne peut pas parler de ces ordinations en dehors de la communauté. Les apôtres ont d'abord créé des communautés, n'est-ce pas? Puis les communautés ont choisi parmi ses membres des candidats et les apôtres les ont ordonnés dans ces mêmes communautés pour le ministère. Le baptême, comme le sacrement de l'entrée dans l'Église, signifie en même temps l'entrée dans la communauté chrétienne. Ce que nous appelons aujourd'hui le sacrement de confirmation, c'est la première ordination, c'est l'ordination de chaque membre de l'Église au ministère du sacerdoce royal. Ainsi, le peuple de Dieu, qui est devenu un peuple de prêtres, s'est réuni à l'Assemblée Église pour le culte principal, l'Eucharistie, sous la présidence du grand prêtre. Le grand prêtre ou l'évêque ou premier presbytre est le premier prêtre parmi les peuples des prêtres apportant l'action de grâce. Il remplace le Christ à la scène mystique, c'est-à-dire il prend sa place dans l'assemblée eucharistique. Le concept de vicaire du Christ découle de ce lieu. Chaque pasteur choisi par le peuple est placé par l'Église à cette place et le vicaire du Christ. Les presbytres entourent l'évêque, formant dans la communauté un conseil sur le modèle de collège des apôtres autour du Christ. Ils ont le même charisme pastoral, ils sont coprésidents du premier. Nous connaissons bien le ministère diaconal par les Écritures et l'histoire de l'ancienne Église, élevé des autres ministères. L'ordination pour tous les ministères a eu lieu et a lieu jusqu'à ce jour dans l'Assemblée eucharistique. Ainsi, nous voyons que le principe hiérarchique s'oppose au sein de la communauté eucharistique. C'est donc le sacrement de l'Eucharistie qui doit être appelé le fondement de l'institution de l'Église et ne pas distinguer la hiérarchie seule comme constituant le début qui semble posséder les sacrements et les donner au peuple. Il est également connu que les candidats à tous les ministères ont été choisis par la communauté dans cette élection. Nous voyons le principe conciliaire ou synodal, comme vous voulez, de l'institution de l'ancienne Église. L'élection du candidat à la place du grand prêtre est confiée à la communauté elle-même. C'est l'accord du peuple de Dieu, c'est la réception intérieure. Les presbytres de cette église, comme les évêques et les presbytres des communautés eucharistiques voisines, l'ont ordonné pendant l'Eucharistie, appelant le Saint-Esprit à accomplir le sacrement. La nécessité de la participation des évêques et des presbytres voisins est une réception extérieure de l'Église universelle. Le rapport entre l'Église locale et l'Église universelle était déterminé précisément par le mécanisme de réception, qui à son tour est lié à la loi de l'identité de l'Église à elle-même. La loi de l'identité de l'Église à elle-même découle directement du sacrement de l'Eucharistie. Le dogme orthodoxe et catholique confesse que le corps du Christ est un, comme le Christ lui-même. Il réside pleinement dans chaque Eucharistie, dans l'horizontale de l'espace et la verticale du temps. Par conséquent, l'Église, en tant que corps du Christ, demeure dans chaque assemblée eucharistique. Donc l'assemblée eucharistique elle-même devient le corps du Christ. C'est cette doctrine de l'Eucharistie qui donne lieu à parler de l'Eucharistie en tant que la constitution de l'Église. Les presbytres et les évêques des églises voisines témoignent que le nouvel évêque est ordonné par le même Saint-Esprit, il garde la même foi apostolique, accomplit les mêmes sacrements et que son église locale est unie aux autres églises locales. Comme vous le savez, l'ancienne église ne connaissait pas la pyramide hiérarchique stricte, mais il n'avait pas d'anarchie. Avant les destruction de Jérusalem, le centre de concorde était la communauté de Jérusalem. À la fin du IIIe siècle, des grandes communautés des mégalopoles de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie étaient considérées comme les plus autoritaires. Les communautés des mégalopoles, en tant que centre unificateur, ont eu la responsabilité de servir l'unité et la catholicité de l'Église. Par conséquent, nous voyons dans les témoignages écrits de l'ancienne Église de nombreuses lettres apostoliques et pastorales, en particulier en cas de conflit. Toutes ces lettres sont imprégnées de soin et d'amour. C'est le pouvoir de l'amour et non exigence d'une stricte soumission à l'autorité de la hiérarchie dans sa compréhension mondaine. Tout concile de cette époque était la même assemblée de toute l'Église locale, avec la participation des délégués des églises voisines. Le concile de Jérusalem, décrit dans les Actes des Apôtres, était une assemblée de toute l'Église de Jérusalem, avec la participation de représentants de l'Église d'Antioche. Les apôtres et les presbytres ont délibéré sur l'affaire, mais toute l'Église a pris la décision. Il ne faut pas oublier, lorsque le martyr Ignace d'Antioche au IIe siècle a écrit sur l'importance des évêques dans l'Église, tous ces évêques étaient les chefs des communautés et non des diocèses. L'accent mis sur l'importance du collège des évêques apparaît au milieu du IIIe siècle. Ensuite, le paradigme du concile lui-même commençait à changer. La réunion de la communauté locale avec la participation des évêques voisins se métamorphose à une réunion du collège des évêques avec la participation du peuple de l'église locale. C'est à ce moment-là que la doctrine de Cyprien de Carthage, qui distingue le corpus des évêques comme un critère important de la catholicité, apparaît. Encore une fois, je remarque, lorsque Cyprien écrit à propos de cette doctrine, les évêques de son époque sont toujours restés les chefs des communautés et non les chefs diocésains. Une nouvelle métamorphose globale à l'institution de l'Église commence, comme on le sait, au IVe siècle, lorsque les foi chrétiennes deviennent la religion dominante de l'Empire romain. En conséquence, l'union de l'Église et de l'Empire romain a conduit à l'hellénisation de la doctrine chrétienne. Et ce qui est plus important à noter maintenant, cette union a conduit à la romanisation de l'institution de l'Église. L'ancien principe communautaire de l'institution de l'Église perd de son importance. Le processus de centralisation des structures ecclésiastiques commence. Des districts apparaissent basés sur le principe des diocèses romains. Cela a conduit à l'élévation du rôle des évêques qui deviennent les chefs des diocèses, les administrateurs, tandis que les presbytères restent à la place des évêques dans les communautés. Ce nouveau système est enraciné dans le droit canon de l'Église, formé sous forte influence du droit romain. Tout cela est consolidé de le développement de la doctrine de Cyprien. Le corpus des évêques se détachent des églises locales et deviennent au-dessus d'elles, car les élections des évêques dans les communautés cessent. Les élections des évêques dans les diocèses ont eu lieu pendant un certain temps, mais elles cessent également avec la participation du peuple de l'Église. Les presbytères ne participent plus non plus à l'ordination du nouvel évêque. Maintenant, les évêques décident de toutes les affaires entre eux. L'évêque devient en fait vicaire de la plus haute autorité ecclésiastique qui le nomme dans le diocèse. Cette métamorphose n'est pas toujours pas prise en compte par les théologiens orthodoxes et catholiques. La nouvelle doctrine a essayé de préserver l'ancienne doctrine de l'évêque en tant qu'il est l'image du Christ, le maître, le pasteur, le grand prêtre, mais elle a arraché l'évêque de sa place sacramentelle dans la communauté sacramentelle. Il l'a placé à une place supérieure à l'ancienne. Mais il n'existe pas de place sacramentelle à haut niveau, seulement administratif, car la place sacramentelle de l'évêque dépend de sa place à l'Assemblée eucharistique. C'est pourquoi le théologien orthodoxe du XXe siècle, Jean Meyendorff, écrit directement « En effet, si la pastorale, la magistère et la grande prêtrise appartiennent au président de l'Eucharistie, ils sont de facto accomplis dans le ministère des recteurs modernes des paroisses et non des évêques. Le principe de la conciliarité de l'ancienne Église a subi des changements importants à partir du IVe siècle. Évidemment, le concile devient exclusivement des conciles des évêques. Cependant, la compréhension du pouvoir suprême était partagée. En Orient, la préférence était donnée à la pentarchie diptyque des cinq églises célèbres, où l'Église de Rome et son évêque occupaient la première place, tandis qu'en Occident, l'accent était mis sur la primauté de l'évêque de Rome sur toute l'Église. Après le schisme, grand schisme de l'Église, 1054, La primauté en Orient est placée à la deuxième église du diptyque, celle de Constantinople. Après la chute de l'Empire romain d'Orient, 1453, le système n'a pas été violé, mais il a été encore renforcé quand le pouvoir de l'Empire ottoman a confié au patriarche de Constantinople le poste d'ethnarque surmêlé de tous les chrétiens orthodoxes, grecs, serbes, bulgares, romains et des autres. Les conciles orthodoxes de cette époque étaient locaux. Il n'y avait très peu, ce sont toujours des conciles, des évêques. L'exception était l'indépendance de l'église orthodoxe dans le royaume de Moscou, parce que le royaume de Moscou était le seul libre des conquêtes islamiques. À l'époque que l'historien appelait l'histoire moderne, l'empereur Pierre le Grand de l'Empire russe a approuvé un modèle similaire à celui des pays luthériens du nord de l'Europe. À la tête de l'église de l'Empire russe, un synode des évêques a été mis en place, qui était en effet dirigé par le fonctionnaire d'État Oberprokuror. Le poste de patriarche a été supprimé, les conciles des évêques n'ont pas eu lieu pendant 200 ans. D'autres changements dans l'institution de l'église orthodoxe commencent au 19e siècle et se poursuivent au 20e siècle, lorsque les mouvements de libération nationale en Europe du Sud ont fait de l'Église l'instrument de leur lutte contre les Ottomans, ce qui a finalement conduit à la formation non seulement des nouveaux États, mais aussi des Églises autocéphales nationales. Mais les canons médiévaux ne les satisfaisaient plus et le nouveau code canonique unifié n'a pas été fait jusqu'à présent dans l'Église orthodoxe. En conséquence, les églises autocéphales ont commencé à rédiger leurs statuts. Dans le nouveau modèle, les églises indépendantes, l'identité nationale est clairement indiquée. Au XXe siècle, une nouvelle doctrine ecclésiologique est née dans l'Église orthodoxe. Si dans le paradigme apostolique, l'Église locale est une communauté, dans le modèle médiéval, c'est un diocèse. Les partisans de la nouvelle doctrine transfèrent maintenant le concept d'Église locale à une formation autocéphale à grande échelle. L'institution évolue notamment vers le séparatisme et même vers le principe de l'Église-nation. C'est pourquoi un nouveau terme de juridiction a été introduit, ce qui permet d'être membre de celle-ci en dehors du territoire de l'Église autocéphale. Dans le monde entier et en France en particulier, le philitisme ou ethnophilitisme a donné naissance à l'existence parallèle de nombreuses juridictions mondiales et en même temps nationales des Églises orthodoxes avec leurs évêques et leurs diocèses sur le même territoire. La nouvelle doctrine commençait à formaliser l'Église dans les catégories séculaires de la nouvelle époque. Il y a un mélange de concepts doctrinaux et juridiques. En conséquence, la structure de l'Église ressemble à une configuration de juridiction autocéphale à la tête de laquelle se trouve le Christ invisible. Il n'y a pas de centre de concorde visible ni de premier évêque servant l'unité. Le paradoxe est qu'en déclarant hypocritement l'absence d'un centre unique au plus haut niveau, les partisans de cette nouvelle doctrine ne remettent pas en question l'existence d'une pyramide hiérarchique au sein de chaque église autocéphale terminée par le premier évêque, le patriarche ou l'archevêque ou métropolite. Toutes les églises autocéphales ont des conciles, des évêques, et à une certaine périodicité. Dans les grandes juridictions, il existe également des synodes dirigeants permanents composés d'un certain nombre d'évêques. Dans un certain nombre d'églises autocéphales, il y a aussi la pratique des conciles avec la participation des prêtres, des diacres, des délégués laïcs, mais cette pratique est loin d'être omniprésente et non périodique. Généralement, ces conciles sont chronométrés sur l'élection d'un nouveau patriarche. Il ne change pas fondamentalement les situations, car dans la grande majorité des juridictions autocéphales, le pouvoir exélétique suprême, représenté par le patriarche et le synode, nomme toujours les évêques dans le diocèse et les déplace d'un diocèse à l'autre. Les évêques sont donc toujours les représentants du pouvoir suprême et non de leur diocèse. 2 ans plus tard, après le Concile panorthodoxe 2016, la crise a éclaté. Il y a eu un schisme sur la question de l'Église en Ukraine. Mais la raison est plus profonde. Les deux concepts de l'Église se sont affrontés. L'Église de Constantinople tente de ramener le modèle ecclésiastique de l'époque médiévale qui rappelle l'Église de Rome, l'Église russe, promeut activement le modèle séparatiste de juridiction nationale et en même temps mondiale. Pendant ce temps, deux mouvements sont nés dans le sein de l'Église orthodoxe. Le premier est le mouvement monastique des 18e-19e siècles sur le mont Athos. L'une de ses directions les plus importantes était la restauration des normes liturgiques de l'ancienne Église, en premier lieu la communion fréquente. Cependant, la question du retour à l'institution de l'ancienne Église n'a pas été proposée à l'époque. Mais dans l'Empire russe, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un nouveau mouvement visant à réformer l'institution de l'Église s'est développé. Nous pouvons attribuer à ce moment de nombreuses personnalités, des penseurs, des professeurs, des académiques, des groupes entiers de prêtres, des évêques, des laïcs et même des membres du gouvernement. En conséquence, entre les deux révolutions russes qui a eu lieu à commencer la préparation du concile ecclésiastique qui s'est tenu à Moscou en 1917-1918 avec la participation des évêques, des délégués du clergé et des moines ainsi qu'une large représentation des laïcs qui représentaient le plus de la moitié des participants au concile. Les décisions les plus importantes de ce concile dans le domaine de la réforme de l'institution de l'Église ont été suivantes. Première, l'abandon du contrôle de l'État et la restauration du poste du patriarche, cependant avec l'approbation d'un nouvel système de gestion de l'Église où le pouvoir du patriarche est limité non seulement par le synode mais aussi par le concile supérieur de l'Église composé de représentants du clergé, des moines et des laïcs. Deuxième, création d'assemblées diocésaines du clergé et des laïcs avec large pouvoir est avec le plus important d'entre eux, l'élection des évêques, que la plus haute autorité ecclésiastique ne déplace pas. Décentralisation, réduction de la taille des diocèses, formation de districts ecclésiastiques ou d'union de plusieurs diocèses ou l'union paroissiale. Approbation de la charte paroissiale, bien sûr du conseil paroissial et de l'assemblée paroissiale, qui a le pouvoir de proposer à l'évêque des candidats au clergé. Autonomisation des femmes au sein de l'Église dans le culte, la prédication et l'administration de l'Église. Je tiens à souligner que le concile de Moscou a eu lieu 45 ans avant le concile Vatican II. Désolé, le concile de Moscou n'a pas terminé son travail. Il a eu lieu au milieu de la révolution et de la guerre civile. Beaucoup de ses membres sont devenus martyrs. Après la chute du régime communiste, l'Église russe a en effet renoncé aux décisions principales de ce concile, exception de l'élection du patriarche qui a repris sous Staline. Une partie des membres du concile a partagé le sort des réfugiés en Europe, en Amérique, en Asie, où l'Église d'émigration se sont formées, dont certains ont essayé de suivre les décisions du Concile de Moscou. Le droit associatif ou corporatif de nombreux pays occidentaux a contribué à préserver et à renforcer l'importance des paroisses dans les Églises immigrées. En 1925, à Paris, L'immigration ecclésiastique russe fonde l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, dont les professeurs poursuivent le travail critique de leurs prédécesseurs. Cette direction théologique a été appelée ecclésiologie eucharistique. Les partisans de l'ecclésiologie eucharistique, travaillant en accord avec l'esprit du Concile de Moscou 1917-18, posent des questions plus profondes. Par exemple, avant de ramener l'élection générale des évêques, il est nécessaire de déterminer qui devrions-nous reconnaître comme l'Église locale, un diocèse ou une paroisse, et donc qui doit être reconnu comme président de cette Église locale, l'évêque du diocèse ou le recteur de la paroisse. Dans cette veine, il est proposé de réduire la taille du diocèse à une seule grande paroisse comprenant l'Église principale et plusieurs satellites. En effet, ce que représentent aujourd'hui les paroisses catholiques en France, on parle de paroisses multiclochers. Une autre question importante est, est de savoir comment se rétablir le mécanisme de réception, la coordination des églises locales. Il n'est pas nécessaire de détruire des formes d'unification telles que diocèse ou patriarcat, mais il est nécessaire de leur donner la seule importance des unions des églises locales. Il est posé de restaurer la valeur d'un centre de constamment unique. Il peut s'agir d'une église historique unifiée, par exemple Constantinople. Cependant, il est également proposé de former avec elle un grand conseil permanent composé de représentants de toutes les églises ou plus précisément représentants de toutes les grandes unions des églises. Pour tout cela, nous avons besoin d'une révision complète des canons, mais nous devons d'abord emprunter les principes, la relation entre le droit et la grâce divine dans la vie de l'Église. Je pense que nous devons opérer par catégorie d'autorité dans l'esprit, pas de pouvoir de César, la priorité dans l'amour, pas de primauté. Il existe également un premier précédent pour rétablir le ministère des diaconesses dans le patriarcat d'Alexandrie. Donc, comme vous le savez, la première attention à l'ancienne Église a surgi dans le sein de la réforme protestante. La même intention était le mouvement liturgique dans l'Église catholique. Je suis sûr que beaucoup de ce que je vous ai dit est bien connu, mais je vous ai présenté une interprétation de notre histoire de la part de ceux orthodoxes qui se préoccupent de la crise de l'institution de l'Église orthodoxe et qui ont participé et participent au mouvement, au nouveau mouvement pour corriger ces distorsions. Bien sûr, je comprends qu'il y a de grandes difficultés à mettre en œuvre le programme de réforme. Le Concile de Moscou de 1917-18 était local. Et comme je l'ai noté, la hiérarchie moderne de l'Église russe a en effet abandonné les décisions de principe de son concile. Et ses actes sont peu connus dans le monde orthodoxe. Néanmoins, les actes du Concile de Moscou de 1917-18 constituent un précédent historique. Bien qu'aujourd'hui nous soyons une minorité, le moment en tant que tel n'est pas encore formalisé, mais nous avons déjà accumulé une base théologique solide. De toute cette histoire, nous voyons également qu'il existe un thème spécifique pour travailler ensemble dans le mouvement œcuménique. Notre vision de l'ancienne Église nous rapproche des protestants en accordant la priorité à la communauté ecclésiale et la base sacramentelle de l'Église nous rapproche des catholiques et de toutes les églises où elles se trouvent. Merci.
Vous venez de suivre l'intervention du père Georges Ashkoff le mercredi 1er mai 2024 lors de la rencontre œcuménique de Belloc sur la synodalité « Construire ensemble l'Église d'aujourd'hui ». La semaine prochaine, vous pourrez entendre la deuxième partie de cette rencontre œcuménique de Belloc avec l'intervention de Mgr Bernard Dubasque sur notre antenne « Même jour, même heure ». Des interventions à retrouver également sur notre site internet www.lapourdi.net.